à toutes et à tous, bienvenue à Culture Musique. Deuxième volet aujourd'hui de notre semaine consacrée au Festival Radio France Montpellier-Occitanie. Nous sommes à Montpellier, en public et en direct de la cour Soulages du rectorat. Dans une demi-heure, c'est un quintet à cordes que nous entendrons sonner. Le quintet opus 42 numéro 2 de Luigi Boccherini par les solistes de l'Orchestre National de Montpellier. Puis c'est l'ancien président de Radio France, ancien ministre, professeur émérite des universités à Sciences Po, Jean-Noël Jeannet, invité des rencontres de Pétrarque, qui partagera avec nous un de ses souvenirs de concert. Mais tout de suite, nous avons la chance et la joie surtout d'accueillir un jeune pianiste au talent extraordinaire, inconnu il y a encore un an, dont la prestation au dernier concours Tchaïkovski lui valut de remporter le 4e prix et le prix des critiques musicaux de Moscou. Ses interprétations firent grand bruit et déclenchèrent l'engouement auprès du jury et du public moscovite, comme jamais, dit-on, depuis la venue de Glenn Gould et la victoire de Van Cliburn à ce même concours. Bonjour Lucas Debargue, merci d'être avec nous à l'antenne de France Culture.
Bonjour.
Vous êtes à Montpellier car vous interprétez ce soir le concerto en sol majeur de Ravel, sous la direction de Andrés Poga, puisque c'est Togan Sokuyev qui devait diriger mais qu'il est souffrant, donc il est remplacé par Andrés Poga, avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. L'occasion pour nous de se pencher sur votre parcours et votre jeune carrière. Je propose qu'on vous écoute tout de suite dans le début du Scarbo, troisième mouvement de Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel. Thank you. C'était le troisième mouvement de Gaspard de la Nuit, le Scarbo par vous, Lucas de Bargue. Il est fantasque votre Scarbo, il est inquiétant, il est très articulé et construit. Oui, non.
Non, si vous le dites, moi, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de m'écouter. Enfin, évidemment, je me suis réécouté quand on a travaillé sur le disque, mais je m'écoute pas tous les jours. Et moi, je trouve, c'est vrai que j'entends beaucoup de monde me dire, ah, mais c'est tellement original, il y a tellement de choses. Moi, je trouve pas que ce soit original du tout, et je pense que je vais pas beaucoup plus loin que ce qui est marqué, en fait. Je pense que je suis très attentif à la façon dont c'est marqué, pas seulement aux nuances, aux dynamiques sur la partition, mais aussi aux accords, aux harmonies. On peut pas tout jouer de la même manière, en fait. La façon dont l'harmonie avance, Ravel était très attentif à ça, la façon dont il construisait un morceau harmoniquement. Il y a toujours des plans très organiques. Et voilà, donc je suis attentif à ça. Donc après, on peut parler de couleurs, on peut parler d'expression.
Mais on sent des images aussi. Vous parlez de Goya, par exemple, quand vous évoquez
Gaspard
de la Nuit.
Après, on peut s'inspirer. C'est surtout pour se rassurer soi-même, en fait, quand on s'attaque à de tels morceaux. En fait, c'est vrai que c'est vraiment un challenge. C'est très difficile à jouer. Enfin, ça, je vais pas insister là-dessus. Les gens le savent.
Ou pas, mais
c'est très difficile. Et c'est vrai que le fait d'avoir des images dans la tête permet de. Il n'y a pas foncièrement besoin d'avoir de l'inspiration, en fait. Le principal, quand on joue, c'est de s'écouter. Mais ça peut favoriser la concentration et d'aller chercher, par exemple, dans un détail, de pouvoir fixer un détail. Je sais que certains comédiens, par exemple, se sentent mieux quand ils fixent un point qui existe ou un point imaginaire. Voilà. Et c'est vrai que moi, parfois, j'utilise ce procédé avec une photo, avec une image qui va présenter des liens éventuellement avec ce que je vais jouer. Et comme ça me permet d'avoir une image, un détail en tête que je fixe pour garder la concentration, parce que c'est vraiment ce qui est capital. C'est pas souvent quand on filme un pianiste, on filme les mains, les gens veulent être placés dans la salle pour regarder les mains, mais c'est pas là du tout que ça se passe. Ça se passe dans la tête, 90% la tête, et si la tête est suffisamment préparée,
articulée,
après on peut laisser passer les émotions, on peut transmettre, évidemment. C'est pas simplement, la musique est pas que intellectuelle, mais la préparation est vraiment en grosse partie une histoire de concentration, de mémorisation, d'anticipation. Voilà.
Vous avez commencé le piano relativement tard, à 11 ans, après l'écoute du concerto numéro 21 de Mozart, qui vous a bouleversé, c'est ça ?
Oui.
Donc, et vous avez commencé de façon assez tranquille, hein. Vous dites que vous avez pas mal bricolé, écouté des choses sur Internet, téléchargé. Voilà. Ouais. Puis, à 17 ans, donc l'année de votre baccalauréat, vous avez arrêté le piano pendant 3 ans. C'est bien ça ?
Oui, en gros, un peu plus, parce que j'ai grandi à Compiègne, et à Compiègne, j'ai suivi les études dans l'école de musique avec une professeure, Madame Munier, qui était absolument adorable, très bienveillante, et qui m'encourageait justement à lire, à déchiffrer le plus possible, même les pièces très difficiles pour moi. Donc j'ai commencé très très vite à aborder
du répertoire,
les rhapsodies hongroises de Liszt, les scherzi de Chopin, les ballades. Déjà j'ai déchiffré ça et j'avais ça dans les oreilles déjà très tôt. Elle me laissait faire, même si j'y allais avec mes moyens. Enfin, j'avais absolument aucun rudiment de technique physique au clavier. Mais ça m'a permis d'avancer très naturellement, très spontanément dans le répertoire. Alors au moment où on pouvait plus aller plus loin parce qu'elle m'avait fait passer la dernière étape, ce qui s'appelait cycle
spécialisé, c'est ça.
Voilà, mais en fait ça n'avait pas de valeur, il y avait pas de diplôme d'état ou quoi. Donc après je ne pouvais plus me réinscrire au conservatoire, je suis rentré au lycée. Bon, j'ai changé un peu de bande d'amis, je me suis orienté un peu dans d'autres genres de musique, j'ai laissé le piano de côté, je suis revenu au piano quand une série de circonstances, des personnes qui me rappellent pour faire un petit concert.
À la fête de la musique de Compiègne.
De Compiègne, oui. Entre autres, j'ai fait des journées du patrimoine aussi, ce genre de petites occasions de revenir un peu sur la scène, voilà.
Et vous vous y êtes remis à ce moment-là, plus sérieusement? Et c'est là que vous avez rencontré donc Rena Cherechevskaya.
Pas immédiatement. J'ai d'abord rencontré un super professeur, Philippe Tamborini, qui travaille au conservatoire de Beauvais et qui m'a beaucoup soutenu. Et c'est lui qui m'a parlé de Rena. Et donc j'ai fait la connaissance de Rena en 2011 au conservatoire de Rueil-Malmaison.
Rena Cherechevskaya, qui vous a donc préparé au concours Tchaïkovski. On va tout de suite écouter un extrait, le final du concerto numéro 1 en si bémol mineur, opus 23 de Tchaïkovski. Thank you. vous applaudis, Lucas Demargue, à l'écoute donc de ce final du concerto numéro 1 en si bémol mineur opus 23 de Tchaïkovski. C'était donc lors de la finale du prestigieusissime concours Tchaïkovski. Vous jouez avec l'Orchestre Académique Symphonique d'État dirigé par Alexei Bogorad et on sent vraiment un engouement énorme de la part du public. Les Russes ont été particulièrement emballés par votre jeu. Feltsman paraît-il comme un fou. Bashkirov aurait dit que dans 2 ans vous serez un des plus grands du monde. Berezovsky vous a qualifié de génie. Gergiev vous a invité tout de suite à jouer avec le Mariinsky. Bon, j'imagine que c'est des souvenirs très très forts. On vous sent encore absolument passionné quand vous revivez ce moment. Quels souvenirs et quelles sensations vous gardez du concours Tchaïkovski?
J'épuiserai jamais en fait ce mois que j'ai passé à Moscou. C'est comme si c'était devant moi. C'est-à-dire que c'est impossible de le placer. C'était d'une telle intensité que c'est impossible à placer dans le temps chronologique. C'est un niveau d'intensité que je cherche toujours à atteindre quand je joue, parce que c'était exactement ce qu'il fallait à ce moment-là. C'est-à-dire que je remercie ma professeure Réna encore une fois.
On parlera d'elle tranquillement après, vous inquiétez pas.
Je la remercie encore une fois parce que c'est vrai qu'elle avait totalement raison sur la préparation. Ça, c'est la musique, c'est vraiment les années. C'est tenir un morceau, quand on est pianiste professionnel, on est censé pouvoir apprendre très vite n'importe quelle pièce. Elle est pas là, la difficulté. La difficulté, le défi, il commence quand on porte une pièce avec soi dans les épreuves de la vie aussi. C'est-à-dire qu'en 3 ans, il se passe forcément des choses en dehors des heures de répétition au piano. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une œuvre musicale nous accompagne comme un être vivant. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé avec le programme du concours.
Parce que c'est un programme qui est très lourd et très long.
Il y a des concours avec des programmes plus monstrueux encore. On peut aller toujours plus loin.
Voilà. C'est quand même avec le concours Chopin un des plus difficiles.
Du point de vue du déroulé, c'est vrai qu'il y a 2 présélections. Il y a une présélection d'abord sur DVD, ensuite tout le monde vient à Moscou. Enfin, il y a 60 personnes présélectionnées sur DVD qui viennent à Moscou. Il y en a la moitié qui partent. Donc ils ne sont venus que pour jouer un quart d'heure et pour être jetés dès le départ. Après, il y a un premier tour où il n'y a plus que 30 personnes qui jouent déjà, et c'est tout de suite dans la grande salle du conservatoire avec un prélude et fugue de Bach. Donc ça, pour moi, c'était vraiment le plus important challenge du concours, peut-être, parce que c'était ma première expérience dans des telles conditions, avec une telle salle, une telle attente, en fait, quelque part. En même temps, j'étais complètement inconnu, donc c'était le grand avantage pour moi, c'est que personne ne me connaissait, donc j'avais une certaine marge de liberté. Mais bon, commencer avec Jean-Sébastien Bach, c'est toujours, surtout dans un concours, c'est toujours extrêmement difficile, parce qu'on est vraiment à nu.
À nu, c'est ça. Ouais.
Et c'est vraiment voilà. Donc moi, je me souviens que j'ai transposé ça, je l'ai joué en le transposant dans toutes les tonalités, je l'ai recopié à la main de mémoire tous les jours avant, parce que j'étais terrorisé par ça.
Pour l'avoir en vous totalement.
Et vraiment l'épreuve. Moi, dont je me souviens le plus et dont je suis le plus fier, finalement, dans ce que j'ai donné, c'est vraiment cette première épreuve où la plupart des œuvres sont imposées, parce qu'on doit faire un prélude et fugue de Bach, une sonate de Beethoven. Après, il y a 3 études virtuoses, une de Chopin, une de Liszt, une de Rachmaninov, et après une pièce de Tchaïkovski. Donc, c'est vraiment un collage. On peut pas vraiment faire comme dans un concert où on choisit le déroulé, la dramaturgie du programme. Là, c'est des pièces imposées, des pièces de virtuosité, des pièces de difficulté intellectuelle, cérébrale, puis de virtuosité à enchaîner dans l'espace d'une demi-heure. Donc, c'est vraiment très difficile.
Il y a aussi la difficulté des concertos. Il y a 3 concertos, c'est ça?
Voilà. Alors après, il y a les concertos. Bon, ça, c'est évidemment une préparation très spéciale. Que j'ai eu partiellement, puisque j'ai eu l'occasion de répéter une fois les concertiers avec des orchestres en France, l'orchestre de Massy notamment. Mais c'est de toute façon dans des conditions de concours avec un orchestre d'une telle dimension et une telle attente, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, de toute façon, c'était une première fois, quoi.
Et la rencontre donc avec Réna Cherecheskaya a été absolument déterminante dans votre parcours de pianiste?
Ah bah c'est simple, si j'avais pas fait sa connaissance, j'aurais jamais décidé d'être pianiste concertiste, j'aurais jamais décidé de faire ça. Pour moi c'était une folie brute, parce que c'est pas du tout la manière dont j'ai abordé la musique, j'ai pas du tout abordé la musique pour faire ça, c'était pas mon but au départ.
Vous aviez d'autres envies ?
De continuer à vivre avec la musique, donc d'improviser, de composer, de jouer, mais pas dans le but de faire une carrière, pas dans le but d'être un professionnel de l'interprétation. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je suis arrivé dans sa classe, j'étais un petit peu provocateur, c'est-à-dire que je disais, mais les professeurs, les écoles, non, pourquoi enseigner, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi faire des concerts, tout ça. J'étais un petit peu amer avec tout ça, parce que je connaissais pas. Et elle a été formidable, parce qu'elle m'a dit, si tu penses que tu peux te passer de professeur, si tu penses que ça sert à rien, bah vas-y, joue comme tu penses que c'est bien de jouer et puis montre ce que tu peux faire. Donc j'ai joué et elle m'a dit, alors moi je trouve ça très intéressant, mais après elle s'est mise au piano, elle a joué et je me suis dit, mais c'est vrai, enfin c'est évident, elle a raison, en fait c'est mieux comme ça, pourquoi je le fais pas? Et là je me suis mis à essayer de faire comme elle et j'y arrivais pas. Elle m'a dit parce que t'as pas les outils,
les
tu peux pas, tu peux pas improviser, tu peux pas, voilà, donc, des choses entre les deux mains, des histoires d'équilibre, des histoires de nuances, des histoires du temps, arrêter le temps, et tout ça progressivement, elle m'a donné ces outils qui sont des outils d'interprétation, parce qu'en fait pour jouer un morceau, il ne suffit pas encore une fois de l'apprendre et d'entraîner ses doigts avec des exercices, voilà. Pour jouer un morceau, il faut savoir ce qu'on fait du point de vue de l'interprétation, comme si on avait un rôle de théâtre ou voilà. C'est vraiment d'apprendre que chaque phrase musicale corresponde à un affect, un sentiment,
un discours, une image, une construction. Voilà. On va vous entendre maintenant dans une sonate de Scarlatti, la sonate en la majeure, K24, qui figure sur votre premier disque. Thank you. C'était la sonate en la majeur K24 de Scarlatti, interprétée par vous, Lucas de Bargue, sur votre premier disque. Il y a une liberté de ton, beaucoup de franchise dans vos attaques et en même temps, je trouve, de délicatesse dans votre toucher. C'est très spirituel et poétique. On est transporté immédiatement quand on vous écoute, on est tout de suite ailleurs. Vous vous racontez, par exemple, sur cette sonate, est-ce que vous vous êtes raconté une histoire particulière ?
Non. En fait, c'est pour moi la musique est déjà la musique remplace, enfin va plus loin que les mots en fait, et la musique remplace toutes les meilleures histoires. Ça peut être en fonction des personnes. Si vous interrogez plusieurs personnes, par exemple les personnes qui nous écoutent maintenant, ils diront des choses. Il y aura peut-être des adjectifs qui reviendront. Mais si on leur demande vraiment de raconter une histoire, ce sont des histoires différentes.
Mais pas forcément une histoire narrative. Enfin, vous voyez.
Non, disons que pour moi, en fait. Scarlatti est peut-être mon compositeur préféré pour clavier. C'est un compositeur que j'aime pour sa fantaisie. Je pense que la fantaisie, c'est pas moi qui la rajoute. Je pense que la fantaisie, elle est contenue dans cette écriture. C'est une écriture qui ne suppose pas du tout une stabilité rythmique comme certaines personnes voudraient le faire croire, qui pensent savoir.
Il y a peu d'indications, de dynamique, tout voilà, ça. Donc ça va être une grande place.
Il y a peu d'indications, mais il y a surtout, ça fonctionne pas comme Mozart, Haydn ou Beethoven, où on a des basses d'Alberti en double croche là, où en fait on a une certaine stabilité rythmique un peu imposée par l'écriture. Ici, très souvent, c'est des accords arpégés à la main gauche, et on a la possibilité de déclamer de façon un peu de façon exagérée presque.
Un peu théâtrale.
Voilà, mais il faut aller chercher de ce côté-là. Quand on écoute aussi les recherches qui sont faites sur le théâtre baroque, on a cette surprononciation du français qui est en fait, si on voit un spécialiste, il dira mais c'est pas du tout surprononcé, c'est juste prononcé, vraiment prononcé. Et quand on prononce vraiment la musique, ça sonne fantasque. Parce que c'est probablement ce qu'il souhaitait.
Contrairement à ce qu'on imagine de l'esthétique, enfin le fantasme de l'esthétique du 18e...
Mais il n'y a pas de question d'esthétique à ce moment-là. Ce n'est pas ces questions-là qu'on se pose.
Ce qu'on imagine aujourd'hui de l'esthétique de l'époque, je veux dire.
Même dans la peinture, en fait, à partir du moment où c'est de la représentation, c'est une histoire de discours. Donc quand on voit des peintures baroques, quand on voit une peinture baroque, il y a quelque chose, il y a toujours des gestes. Quand ce sont des hommes, des femmes qui sont représentés, il y a toujours une grande importance de la gestuelle. Comme si quelque chose est en train de se passer, il y a quelque chose qui est dit, même si la toile est silencieuse en apparence. Et je pense que c'est toujours une affaire de discours, de rhétorique surtout.
On va écouter maintenant un autre pianiste que vous, si vous êtes d'accord, Lucas de Bargue.
Avec plaisir.
On va écouter Samson François qui va interpréter pour nous, non pas du tout pour nous, il a interprété sur un disque le concerto en sol majeur de Maurice Ravel, le premier mouvement. On a le sentiment, Samson François, qu'il improvise aussi en jouant ce concerto en sol majeur de Ravel, dirigé par André Cluytens.
Oui, c'est plutôt bon signe. En fait, si on a l'impression que c'est improvisé, c'est plutôt bon signe. Ça doit sonner de toute façon. Enfin, n'importe quelle pièce doit sonner comme si elle était en train d'être créée en temps réel, maintenant. Autrement, toute la musique peut pas passer, peut pas circuler. J'aime énormément ce pianiste. Moi, il me parle beaucoup aussi pour ses foucades et ses excès, parce que pour moi, c'est pas du tout les excès. C'est complètement normal que la musique, en fait, que la vie dans la musique ait des conséquences aussi dans le reste de la vie. Pour moi, ça peut pas être compartimenté. Quand on va à une certaine intensité dans l'interprétation, dans la foi en la musique, il y a forcément des conséquences dans la vie, absolument. Et c'est absolument pas, pour moi, ça devrait pas être si exceptionnel. C'est plutôt triste, en fait, si c'est devenu exceptionnel, ce genre de destin.
Voilà. Vous trouvez que les artistes aujourd'hui sont plus...
Je ferai pas de généralisation, mais j'ai parlé au conditionnel. Ouais. Ça serait plutôt triste si c'était... Voilà.
Merci beaucoup Lucas Debargue d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en concert ce soir dans ce même concerto en sol de Ravel. Je recommande vraiment ardemment aux auditeurs de se procurer votre premier disque Scarlatti, Chopin, Liszt, Ravel et Schubert, là qu'on entend en fond, paru cet hiver chez Sony Classical. Merci beaucoup Lucas Debargue.
Merci à vous, au revoir.
National de Montpellier que nous accueillons tout de suite, la violoniste Dorota Anderzewska, le violoniste Olivier Jung, l'altiste Éric Rouget, le violoncelliste Cyril Tricoire et le contrebassiste Jean Anné. Votre emploi du temps est très chargé pendant le festival, vous êtes beaucoup sollicité, donc merci beaucoup d'être en direct avec nous à l'antenne de France Culture. Vous allez nous interpréter le quintet à cordes en ut majeur opus 42 numéro 2 de Luigi Boccherini. Luigi Boccherini, donc ce quintet a été composé en 1789, c'est bien ça ?
D'accord.
D'accord. Et on peut dire que Boccherini est un peu le père du quintet ?
Oui, tout à fait. Donc mes petits camarades m'ont chargé de parler en direct, puisque je suis violoncelliste. Alors, je voudrais d'abord expliquer ce choix de ce quintet, en fait, puisque là, nous sommes dans une formation un peu particulière, puisqu'il y a Jean Anné à la contrebasse, qui joue la partie de deuxième violoncelle. Le choix de cette pièce, en fait, et s'est imposé parce que au départ, le festival nous a demandé de jouer le concerto numéro 5 de Beethoven, l'Empereur, rien de moins, dans la version de Vincenzo Lachner pour piano et quintette à cordes. Ensuite est venu le problème de comment construire un programme cohérent et surtout digeste pour le public. Alors nous avons pensé à Boccherini, ce quintet qui a été rendu célèbre en fait par un violoncelliste français, Maurice Baquet, lui-même rendu célèbre par le photographe Robert Doisneau. Voilà, célèbre parce qu'il s'amusait beaucoup avec le rondo de ce quintet. Voilà, donc nous avons proposé à Jean de jouer du violoncelle, mais il a préféré garder sa contrebasse.
Boccherini a écrit énormément de quintettes, hein, plus de 125, c'est ça ?
137, exactement.
137, ah oui. Oui. Et il a participé beaucoup à l'essor du violoncelle au XVIIIe siècle ?
Oui, bien sûr. C'est un petit peu notre papa violoncelliste avec d'autres. Mais
l'instrument roi était plutôt le violon au XVIIIe ou
Non, pas forcément. Enfin, c'est sûr que les dans la famille des violons, il faut pas faire le mélange entre la famille des viols et la famille des violons. Voilà. Mais effectivement, le violon était l'instrument un petit peu roi, et Boccherini fait partie de ces musiciens qui ont voulu montrer au public les étendues assez exceptionnelles de cet instrument.
Très bien, merci beaucoup. On va vous écouter tout de suite dans ce quintet en ut majeur, opus 42, numéro 2 de Luigi Boccherini. Donc, Dorota Anderzewska, Olivier Jung, Éric Rouget, Cyril Tricoire et Jean Anné, vous êtes à l'antenne de France Culture. Thank you. Merci beaucoup Dorota Anderjevska, Olivier Jung, Éric Roger, Cyril Tricoire et Jean Anet pour cette magnifique interprétation du quintet à cordes en ut majeur, opus 42 numéro 2 de Luigi Boccherini. Vous serez, on pourra vous entendre en quintet le 15 à Limoux, le 16 à Bédarieux, le 17 à Jacou et le 18 à Castelnau-le-Lay. Excusez-moi, je ne suis pas spécialiste, pardon. Merci de m'avoir reprise. Donc pour cette dernière partie, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir un invité des rencontres de Pétrarque, fin connaisseur de l'histoire du festival, puisqu'il en fut le cofondateur avec René Koering et Georges Frêche en 1985, lorsqu'il était à la tête de Radio France. Bonjour Jean-Noël Jeannet, merci beaucoup d'être avec nous à Culture Musique. Vous vous êtes replongé dans l'émission dans le programme de 1985 et vous avez choisi de nous faire entendre Slava, une ouverture politique pour orchestre de Leonard Bernstein qu'on écoute tout de suite.
Thank you.
Slava, une ouverture politique pour orchestre de Leonard Bernstein, interprétée par l'Orchestre Philharmonique d'Israël, dirigée par Leonard Bernstein lui-même, qui s'est donné, Jean-Noël Jeannet, ici lors de la première édition du Festival Radio France en 1985.
Mais oui, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire surgir cet excellent souvenir. C'était il y a 31 ans, c'était hier, comme vous voyez. Oui, c'était l'Orchestre Philharmonique de Montpellier, Languedoc-Roussillon, qui avait interprété cette pièce de Leonard Bernstein. Je l'avais choisie parce qu'elle était antérieure de quelques années seulement et qu'elle avait été consacrée à Rostropovitch, qui avait été, grâce à l'entregent de René Kuehring, le principal invité de cette première réalisation, de cette première édition du festival. Je le vois encore comme hier. Je le vois aussi commençant de jouer et puis s'arrêtant. On était dans la cour Jacques Coeur parce que tout à coup, les Martinets s'étaient mis à faire entendre leur présence d'une façon un peu imposante, en vérité. Je pense que les arrière-petits-enfants de ces Martinets sont toujours présents. En tout cas, Rostropovitch s'était arrêté avec beaucoup de bonne grâce. Il avait attendu que les Martinets se tussent. Nous employions à l'époque l'imparfait du subjonctif. Et ça m'a permis d'avoir une amitié, d'ailleurs, avec Rostropovitch, parce que je me rappelle l'avoir rendu visite à Paris ensuite. Il m'avait même conduit jusque dans sa cave, et là j'avais découvert quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il avait fait peindre par un de ses amis un énorme Staline absolument ridicule, dans des couleurs extrêmement criardes. J'ai trouvé que cet homme d'extrême talent était en même temps capable d'un humour à la fois assez fruste et assez efficace.
Slava a été composé par Bernstein pour Rostropovitch. Slava était le diminutif de Mstislav Rostropovitch au moment où il fut déchu de sa nationalité soviétique, c'est ça, après avoir été porté au nu, été considéré comme l'artiste du peuple soviétique, c'est bien ça?
C'est bien ça, c'était devenu un dissident. Et vous vous rappelez qu'un des moments majeurs de cette magnifique carrière a été celui où il est venu au pied du mur au moment de la destruction de celui-ci, jouer de façon absolument magique. Il a vraiment, à ce moment-là,
spontané,
rencontré l'histoire. J'avais eu le sentiment ici, naturellement, qu'il a rencontré l'histoire. Mais franchement, c'était encore plus patent quelques années plus tard.
Donc vous étiez présent, vous étiez donc cofondateur du Festival Radio France. Quelle était la vocation du festival et quels étaient vos désirs et votre ambition en 1985, Jean-Noël Jeannet?
Nos orchestres accompagnaient beaucoup de festivals de toutes sortes en France, mais j'étais un peu hérité par le fait que nous étions parfois relégués dans la communication, comme on dit, de façon un peu marginale. Et j'avais le goût de montrer à la nation et au-delà ce qu'était la puissance culturelle, artistique de notre maison. Et j'ai par conséquent eu l'idée, effectivement, avec Georges Frêche, grande figure ici, de faire ce festival qui s'appellerait Festival de Radio France et de Montpellier et Languedoc-Roussillon, et qui en même temps avait cette spécificité de ne pas présenter seulement notre force musicale, mais aussi de faire venir, avec l'appui de la radio locale, qui était notre radio service public, de faire venir France Culture. Et c'est pourquoi l'année suivante, à l'initiative de son directeur, Jean-Marie Borzec, nous avons créé les Rencontres de Pétrarque, qui, je crois, rassemble beaucoup de nos très fidèles amis encore aujourd'hui. Encore une fois, je ne pensais pas à l'époque, pour être franc, que cela durerait plus de 3 décennies. J'en suis un peu surpris, mais j'en suis extrêmement content.
Vous pouvez. Et le festival ressemble à ce qu'il était il y a une trentaine d'années?
Ce sont presque les mêmes spectateurs. À vrai dire, je les reconnais tous. Et je suis très touché de les voir ici. Mais enfin, disons qu'il y a une continuité. Il arrive parfois que ce soit les enfants et les petits-enfants. Nous nous inscrivons dans l'histoire, vous l'avez bien compris. Et un historien qui vous parle en est extrêmement heureux.
Merci beaucoup Jean-Noël Jeannet de vous être remémoré cette première édition du Festival Radio France et Montpellier avec nous. Culture Musique, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission vous a été proposée par Anna Sigalevitch, réalisée par Charles Le Gargasson. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Gaël Braouezek, Adrien Gaza, Mathieu Tourin à la sonorisation, Gilles Manet. Merci à Pablo Ruiz, Pierre Lamy et Mathieu Maroudin pour leur aide dans l'organisation des plateaux d'aujourd'hui. Demain, nous recevrons Michel Hilaire et Franck Langlois pour évoquer la vie du peintre épris de musique romantique Frédéric Basile. Nous entendrons un ensemble de voix, le trio Irini, et c'est l'invité des Rencontres de Pétrarque, Louis-Georges Tin, qui partagera avec nous un morceau qui lui est cher.